notre invité ce matin dans le 8-30, Jean-Yves Roux, bonjour.
Bonjour.
Sénateur des Alpes de Haute-Provence, co-rapporteur de cette mission sénatoriale avec Jean-François Rapin concernant les intempéries et les inondations. 8 mois où vous avez notamment parcouru les territoires dont les Alpes du Sud, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. 37 auditions qui ont été menées, une consultation, 1200 élus locaux y ont répondu pour au final venir à 3 mots d'ordre, c'est-à-dire que aujourd'hui face aux inondations et aux intempéries, il faut simplifier, mettre en place un mécanisme de solidarité et s'adapter. Mais tout d'abord, j'aimerais juste vous poser une question. Est-ce que là, on n'a pas manqué un peu d'anticipation du côté de Paris? C'est-à-dire qu'il a fallu attendre de graves intempéries qui s'enchaînent désormais dans les Alpes pour en venir à une mission sénatoriale qui, pour l'instant, n'a donné qu'un rapport.
Juste vous préciser quand même que les intempéries qu'il y a eu dans les Alpes-Provence, c'est le président Larcher qui a déclaré cette mission conjointe entre la commission des finances et la commission aménagement du territoire, dont je suis membre, mon collègue Rapin est membre de la commission des finances, c'est suite à un déplacement qu'il y avait eu dans le Pas-de-Calais. Et donc le président Larcher a dit on va faire une mission conjointe, spécialement sur le Pas-de-Calais, et moi en tant que parlementaire, et comme nous avons nos deux départements alpins qui avaient été touchés, mais aussi les Alpes-Maritimes, la Vendée, le Gard, j'avais demandé à ce que ça soit une mission plutôt nationale, mais pas uniquement sur le nord de la France, sur l'île de France, donc sur l'eau de France. Donc on est arrivé à faire comprendre au président Larcher, et c'est comme ça qu'il a décliné donc cette mission. Donc c'est dû aux inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais. Donc, est-ce qu'on aurait pu anticiper? Peut-être. On peut toujours anticiper, je veux dire, une fois que malheureusement des dégâts ont été réalisés. Mais aujourd'hui, cette mission a été réalisée, comme vous l'avez très bien dit, nous avons auditionné plus de 100 personnes. Donc, ça a été quelque chose qui a été très positif parce que notre but, c'est essayer de voir un peu, après, de faire une proposition de loi qui nous permette d'avoir une simplification, comme vous l'avez indiqué, c'est-à-dire une simplification, surtout dans la lourdeur administrative. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que quand les maires n'ont plus le courage, pas le courage, mais ils n'ont plus l'ambition de rentrer dans un cours d'eau. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont peur de se faire verbaliser par la police de l'eau. Donc ils ne connaissent pas vraiment tout ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut curer? Est-ce qu'on peut enlever des sédiments? Est-ce qu'on peut enlever des embarques? Et donc cette mission nous a permis d'avoir un éclairage et essayer de voir, comme on le dit souvent, le travail entre le couple maire-préfet, mais que ce soit maire-préfet et peut-être président de l'intercommunalité, parce que c'est eux qui la compétence GEMAPI.
C'est un peu ce qui a été remonté du côté de Valouis-Pelvoux déjà cet été et encore plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les élus disent mais nous, en fait, on a même les entreprises de BTP qui se proposent d'intervenir immédiatement, mais on ne peut intervenir immédiatement. Donc qu'est-ce qui se passe? On laisse couler, c'est le cas de le dire, et au final, on arrive à des situations qui sont dramatiques.
Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc c'est pour ça que ce rapport, on a voulu, par rapport à ce qui a été vécu, parce que j'ai fait un déplacement dans les Alpes-Provence, dans la Lubaï, je suis allé dans le Pas-de-Calais, mais je suis allé aussi à Risoul, je veux dire, par rapport au pont qui a été emporté, heureusement qu'il y a eu la solidarité du département des Hautes-Alpes qui a permis, entre guillemets, de faire l'accès à la station. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une simplification administrative. On ne peut plus faire, entre guillemets, alors on a les autorisations qui peuvent être données, des autorisations simples. Mais aujourd'hui, on voit que par rapport à nos territoires et par rapport aux crues et par rapport aux précipitations qui sont très localisées dans nos territoires et même au niveau national, ce que je rappelle qu'il y a 54% des départements qui sont touchés et qu'il y a 80% des communes au niveau national qui pourraient être touchées au niveau des inondations. Donc c'est une réflexion que nous avons menée et donc il faut absolument que cette lourdeur administrative, nous puissions la réduire. Et la réduire, c'est-à-dire qu'on fasse confiance aux élus du territoire, au préfet du territoire qui pourra prendre les dispositifs, mais aussi au président de l'intercommunalité qui a cette compétence.
Sans parler forcément de curage, parce que c'est ce qui fait peur aussi à certains groupes écologistes ou encore aux partis politiques Europe Écologie Les Verts en disant hop, il y a quand même une loi sur l'eau qui protège notamment les cours d'eau, les torrents, on va pas faire n'importe quoi là.
Oui, mais je veux dire, entre le curage et l'entretien, c'est tout à fait différent. Le curage, c'est enlever des sédiments sur 80 voire 1 mètre de profondeur. L'entretien, c'est enlever les embâcles et essayer à ce que les sédiments, on enlève les sédiments un minimum pour permettre le ruissellement de l'eau correctement. Pour pas que ça permette d'envoyer d'un côté ou de l'autre du torrent. Donc, je veux dire, c'est tout à fait différent. Moi, sur le curage, je suis d'accord. Il faut qu'on ait une étude plus approfondie qui dure des fois 8 mois, des fois 1 an. Mais pour une simplification, enlever un peu, entre guillemets, du sédiment ou enlever des matériaux qui sont vraiment sur le territoire et même des embâcles qui aujourd'hui nous enlèvent dans nos ponts, il faut qu'on arrive à avoir une entente. Et ça, il faut que Europe Écologie Les Verts le comprennent aussi parce que on fait que enlever, je veux dire, des embâcles qui sont des bois morts, qui sont sur les torrents et qui malheureusement risquent de bloquer, de faire des barrages au niveau des ponts que nous avons et à emporter nos ponts. Donc, je veux dire, il faut travailler en conscience là-dessus et je pense que cette lourdeur administrative, on doit essayer de la réduire justement pour qu'on puisse et qu'on se mette autour de la table pour en discuter. Et je pense que ce soit les associations, parce qu'on peut parler des fédérations départementales de pêche aussi qui pourraient être associées. Mais je veux dire, on peut avoir avec, on est conscient, on peut avoir quelques réflexions qui soient très positives et on peut s'entendre, je le pense.
Et par rapport à cette taxe GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, alors on tombe en plein dedans. Mais alors comment on gère les inondations quand on nous prélève beaucoup et qu'on nous donne très peu? C'est un peu ce que vous avez mis en avant, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre les territoires ruraux qui payent beaucoup, qui reçoivent peu, et des territoires urbains qui payent peu et qui reçoivent beaucoup, mais ça semble ubuesque.
Oui, ben, le problème c'est qu'aujourd'hui la taxe GEMAPI, elle a été créée, avec un maximum de 40 euros par foyer par sur la taxe foncière. Donc c'est 40 euros le maximum. On s'aperçoit que quand c'était prévu, c'est quelque chose qui au début on avait pas énormément d'inondations, c'était uniquement pour l'entretien. Moi, je suis pas du tout parce que certains groupes politiques voudraient déplafonner, je veux dire, la taxe GEMAPI. Moi, je ne veux pas la déplafonner. Je veux
absolument qu'il y ait une solidarité. 40 euros par habitant, on rappelle. 40
euros par habitant. Voilà. Moi, 40 euros par habitant. Par foyer fiscal. Donc, c'est pas par habitat. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on essaie de trouver une réflexion et que ça soit une solidarité amont-aval. Joël Giraud, l'ancien ministre, l'avait déposé dans son dernier rapport et on en avait eu beaucoup discuté, à essayer de voir pour comment on pourrait faire participer, entre guillemets, l'aval par rapport à nos territoires. Parce qu'aujourd'hui, nos territoires sont très concernés par rapport à ce dispositif et malheureusement, par rapport aux petites intercommunalités que nous avons dans nos deux départements alpins, on s'aperçoit, je vais prendre un exemple, le Verdon. Le Verdon, il y a 11 000 habitants sur le territoire de la communauté de communes. Il récolte 900 000 euros de recettes de cette taxe qui est au plafond, qui est à 40 euros. Et malheureusement, ils ont pour 15 millions d'euros de travaux. Donc, ils n'arriveront jamais à réaliser les travaux. Ça veut dire que dans les années qui vont poursuivre, dans les années futures, on risque d'avoir des inondations dans le Verdon. Donc, il faut absolument qu'il y ait une solidarité. Oui. Et la solidarité, c'est par rapport aux métropoles que nous avons sur notre territoire régional.
Qui payent peu et reçoivent beaucoup.
Et qui payent peu et qui reçoivent beaucoup et qui payent peu par rapport, ils reçoivent beaucoup par rapport à l'entretien qu'ils font de leurs canaux. Ils font aussi leur entretien, mais je pense qu'il faut absolument qu'on ait une solidarité amont, aval, et que ça soit quelque chose aval, amont, qu'il soit quelque chose qui soit par rapport aux bassins versants. C'est-à-dire que tous les bassins versants doivent aider les bassins qui sont plutôt montagneux comme notre territoire. Et cela permettrait d'avoir une solidarité. Alors, vous savez, sur la gouvernance, on a beaucoup réfléchi. Parce que la gouvernance aujourd'hui, c'est l'intercommunalité qui a la compétence. La communauté, il y a certains établissements publics de bassin, les ETPB qu'on appelle, peuvent aussi avoir l'entretien de ces cours d'eau. Et grâce à l'EPB, entre guillemets, on a une participation financière de la région, des départements et des collectivités. Dans certaines régions, comme les Hauts-de-France, Xavier Bertrand, lui, a dit, bon, moi je suis président de région, donnez-moi la compétence GEMAPI et je ferai l'entretien. Je crois que le président de région de notre région, Renaud Muselier, lui, est pas du tout, entre guillemets, favorable. Je pense pas dans ce contexte-là. Je lui ai abordé un peu le sujet, mais il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui, mais il était assez interrogatif là-dessus. Donc, je pense que la compétence doit rester aux intercommunalités, mais il faut qu'on ait cette solidarité qui joue par rapport au bassin versant, ce qui nous permettra d'entretenir le réseau. Il y a une chose aussi qui est très importante et qu'on a demandé dans les rapports, parce que ça, on n'en parle pas, c'est-à-dire une avance de trésorerie. Quand on s'est déplacé à Risoul, quand j'ai rencontré le maire de Risoul, il me dit, écoutez, moi j'ai d'énormes travaux à réaliser. La saison estivale d'été va arriver. On va être obligé de rouvrir et de faire des canalisations. Alors, par rapport aux inondations que nous avons eues, on n'a pas la trésorerie nécessaire dans nos collectivités pour le réaliser. Ouais. Donc, ça nous a, on s'est dit, mais pourquoi pas, par rapport aux travaux qui seront à réaliser, que l'État fasse une avance de trésorerie qui serait remboursée, bien sûr, par la commune sur 15 ans, 20 ans, mais qu'on puisse aider les communes à réaliser des travaux rapidement. Parce que derrière, ça se décline. Les entreprises ne vont pas vouloir venir parce qu'ils savent qu'ils ont payé dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Et donc, entre guillemets, on est en train de faire le contraire. Donc, si l'État arrivait à donner une avance par rapport aux dégâts, mais des travaux d'urgence qu'il faut réaliser, la commune rembourserait l'État après, au bout de 15 ans ou de 20 ans, mais ça permettrait à la commune d'engager les travaux très rapidement.
Et l'État, alors ça c'est une avance de trésorerie, mais quand l'État promet, par la voix de Dominique Faure, l'ancienne ministre, de dire bah, zéro reste à charge, vous avez eu des intempéries, elles vous coûtent cher, l'État viendra abonder, mais ce zéro reste à charge, il n'est toujours pas là.
Alors, le zéro reste à charge, c'est une annonce de la ministre Faure. Bon, vous le savez, le gouvernement a changé. J'espère qu'il sera maintenu par rapport à cette annonce. Je sais que Joël Giraud et même, je crois, les deux députés sont intervenus auprès du ministère pour essayer d'avoir des informations pour que ça soit débloqué. Alors, le zéro à charge, je ne sais pas si ça va être pris en compte en totalité, mais c'est une annonce de la ministre. Donc, je ne peux pas aller à l'encontre de l'annonce de la ministre. Maintenant, il faut voir si c'est vrai, si ça va être réel, ou si c'est pas réel. Je veux dire, est-ce que c'est une annonce qui est annoncée comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être décliné? Aujourd'hui, moi, ce que je pense, c'est que le délai entre l'inondation et le traitement du dossier, parce qu'il y a eu une mission nationale qui a été diligentée par les ministères pour venir dans les Hautes-Alpes et dans les Hautes-Provence, elle est venue 3 mois après ou 4 mois après, je ne me rappelle plus exactement. Et on n'a pas la réponse aujourd'hui de savoir si on va avoir, si l'État va accompagner les collectivités. Alors que si on avait fait une avance, je pense que dans le trimestre où on a eu la crue, on peut délivrer une avance parce qu'on est capable de dire par devis l'estimation des travaux qu'il y a à réaliser, sans avoir une totalité, mais au moins une avance à hauteur de 50 voire 80% de subvention qui permettrait à la collectivité territoriale de réaliser des travaux. Et dans l'urgence, vous voyez, il ne faut pas attendre chaque fois qu'on ait une mission qui descende, faire un état des lieux. On dirait que quand on arrive de Paris, on a l'impression que les services de l'État sur notre territoire ne sont pas capables de faire une étude et de faire une analyse financière par rapport aux dégâts qui ont été causés par les crues. Alors qu'on a des personnes très compétentes dans les préfectures, et je pense, et dans les DDT, qui pourraient nous faire des études. Donc je pense que là, il y a une réflexion peut-être à avoir, à la place de faire déplacer une mission exceptionnelle, qu'on puisse essayer de trouver des solutions rapidement.
Dernier point, Jean-Yves Roux, rapidement. Ce rapport, vous espérez quoi? Que ça finisse en proposition de loi?
Alors, on a regardé, on a étudié avec les administrateurs du Sénat. Il y a une réflexion où il y a des points dans les 20 recommandations que nous avons réalisées. Ces 20 recommandations, on pourra le déterminer en proposition de loi, mais des fois, ça sera surtout des décrets ou des ordonnances qui peuvent être réalisées. Mais pour nous, c'est d'essayer de prendre des parce que comme on est deux commissions, le côté financier, GEMAPI, ça sera plutôt la commission des finances, la commission aménagement du territoire, ça sera plutôt par rapport à la lourdeur administrative. Donc, on espère, et moi je l'espère vivement, que cette mission qui nous a été donnée à tous les deux, on puisse faire une proposition de loi pour la simplification et suite aux inondations qu'il y a eu dans le Pas-de-Calais, mais dans la Provence, en Vendée, dans les Alpes-Maritimes, dans le Gard, dans tout le territoire national.
Merci beaucoup Jean-Yves Roux d'avoir été avec nous ce matin, sénateur des Alpes-de-Haute-Provence.